Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Rare à l'écoute, la nouvelle chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les angioédèmes aquinines et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Anne Panier. Docteur Panier, bonjour.
Bonjour.
Alors, docteur Panier, vous êtes pédiatre, praticien hospitalier, spécialiste en immunologie pédiatrique au sein du service de pédiatrie du CHU de Grenoble et référent au CREAC, le centre de référence des angioédèmes aquinines, en charge des consultations pédiatriques et familiales. Alors, docteur Panier, ma première question s'adresse évidemment aux pédiatres. Quels sont les symptômes rencontrés chez les enfants atteints d'angioédème héréditaire aquinine?
Alors, les symptômes de l'angioédème bradykinique chez l'enfant sont des symptômes qui sont similaires à ceux de l'adulte sur l'association de trois symptômes classiquement décrits, des œdèmes périphériques blancs, sous-cutanés, qui touchent les extrémités, les membres, les œdèmes laryngés, qui sont plus rares chez l'enfant que chez l'adulte, inférieurs à 1%, mais qui sont particulièrement dangereux du fait de l'étroitesse de la filière du larynx chez l'enfant, et des crises douloureuses abdominales, qui sont principalement l'enjeu du diagnostic, puisqu'elles sont très fréquentes chez l'enfant, et parfois isolées, ce qui rend le diagnostic particulièrement difficile quand c'est le cas. Il faut savoir qu'il y a très peu de publications pédiatriques avant 2010 sur les symptômes chez l'enfant. Pendant longtemps, on a pensé que la maladie ne parlait qu'à la puberté, mais on sait que dans 50% des cas, les signes se révèlent avant la puberté, entre 5 et 11 ans. Et parfois, les enfants peuvent faire des signes cliniques avant l'âge d'un an. La triade diagnostique, c'est-à-dire l'association des trois symptômes, œdème, laryngé, périphérique et abdominal, est assez rare. Et les douleurs abdominales, comme je l'ai dit précédemment, fréquentes. Il y a une particularité chez l'enfant qu'on peut rencontrer qui s'appelle le rash réticulé, qui est une petite éruption en guirlande au niveau du tronc qui peut précéder le gonflement de quelques minutes et être annoncé une crise. Les facteurs déclenchants chez l'enfant sont un peu similaires aussi à ceux de l'adulte, à savoir des émotions positives ou négatives, des stress, un traumatisme physique, parfois des infections virales, la pratique de certains sports, ou des cours de chirurgie ou de soins dentaires, à la puberté, l'arrivée des œstrogènes chez la fille.
Et face à un jeune patient présentant des œdèmes importants, quels sont les diagnostics différentiels à écarter ?
Alors, il y a deux situations particulières qui sont notamment les enfants qui ont un angioédème bradykinique qui ne font que des douleurs abdominales récurrentes et que des crises sans faire d'œdème périphérique. Et là, on sait que une des premières causes principales de consultation pédiatrique aux urgences de médecins généralistes chez l'enfant sont les douleurs abdominales récurrentes. Et l'angioédème bradykinique est finalement une cause très rare dans toutes les autres causes des douleurs abdominales récurrentes chez l'enfant, avec dans ce cas-là un interrogatoire et des avis spécialisés pour savoir évoquer surtout ce diagnostic quand on est face à des douleurs abdominales d'angioédème bradykinique qui sont des crises qui durent 3 à 5 jours avec souvent une augmentation importante du volume de l'abdomen, des signes digestifs avec des nausées, des vomissements, un arrêt du transit, un enfant qui est extrêmement douloureux, allongé en chien de fusil. Il y a parfois des malaises chez les petits avec un tableau, parfois ce qu'on appelle d'invagination intestinale aiguë chez les plus petits, qui peut être responsable de malaises et de signes presque neurologiques dans ces crises. Quand il s'agit de signes cutanés, les œdèmes localisés, les gonflements sous la peau localisés, le principal diagnostic différentiel est l'angioédème histaminique et pas bradykinique, qui est un gonflement sous la peau qu'on peut voir dans une pathologie qu'on appelle l'urticaire chronique spontanée. L'urticaire donne classiquement des plaques rouges qui grattent, qui sont bien connues, un peu qui ressemblent à des piqûres d'ortie, mais certains enfants ou adultes qui présentent des urticaires chroniques spontanées n'ont que des gonflements sous la peau. Certains font les plaques, certains font les gonflements sous la peau, certains font les deux, plaques et gonflements. Et quand il n'y a que le gonflement sous la peau, on peut parfois confondre l'angioédème histaminique à l'angioédème bradykinique, mais très souvent, ces gonflements sont plus fugaces, durent moins de 24 heures. Ils peuvent se répéter plusieurs jours de suite, mais leur durée est plus brève. Il y a parfois des démangeaisons associées et un terrain, parfois familial ou personnel, qui peut faire évoquer le diagnostic. Et le principal critère qui permet de distinguer les deux sont la réponse au traitement antihistaminique à bonne dose et en traitement de fond qui calme les angioédèmes histaminiques et qui ne marche absolument pas dans l'angioédème bradykinique.
Alors justement, docteur Panier, vous avez commencé à l'évoquer. Comment est-ce qu'on peut affirmer le diagnostic d'angioédème aquiline chez les enfants?
Alors chez l'enfant, on est dans deux situations qui peuvent se présenter. Soit l'enfant est issu d'une famille où on sait qu'il y a un angioédème héréditaire à bradykinique avec une mutation déjà identifiée. On sait classer cet angioédème bradykinique et dans cette situation, on va être face à un dépistage. Donc, plusieurs façons de faire le dépistage, soit de doser quand il s'agit d'un angioédème de type 1 ou 2, le C1 inhibiteur. La protéine du complément qui est déficitaire dans ce cadre-là. Et là, ce dosage peut se faire à l'âge de 6 mois la première fois par une prise de sang. Et elle doit être confirmée par un deuxième dosage après l'âge d'un an. Quand dans la famille, la mutation génétique à l'origine de la maladie est connue, on peut aussi faire un dépistage par prise de sang de la mutation à l'issue d'une consultation de conseil génétique. Et on peut même utiliser maintenant ce qu'on appelle des kits salivaires, un écouvillon à l'intérieur de la joue pour pouvoir faire un dépistage de la mutation et faire le diagnostic formel. Ça, c'est la première situation. La deuxième situation, c'est un enfant qui fait des symptômes cliniques d'angioédème bradykinique sans qu'il y ait de cas identifiés dans la famille. Et là, quand on évoque le diagnostic, ben, on fait une prise de sang là aussi à la recherche des facteurs biologiques déficit en C1 inhibiteur et recherche des mutations. C'est ce qui s'appelle un cas index et c'est le premier cas dans la famille. On va après, si on isole le cas chez l'enfant, bien sûr faire une enquête familiale, mais c'est comme ça qu'on fait le diagnostic formel d'angioédème à bradykinique.
Et lorsqu'on est face à ces angioédèmes chez l'enfant, quels sont les bons réflexes à adopter?
En cas de diagnostic posé chez un enfant, les bons réflexes, c'est de construire la prise en charge de l'enfant autour d'un circuit d'urgence très opérationnel pour la gestion des crises, notamment dans le cadre scolaire et dans la pratique des loisirs, et de pouvoir avoir un suivi annuel ou biannuel en fonction de la problématique dans un centre de référence du réseau national CREAC ou un centre de compétences afin de pouvoir actualiser le traitement, les nouvelles recommandations, puisque chez l'enfant, les choses ont beaucoup évolué sur ces dernières années sur la disponibilité des produits en fond et en crise, et pour pouvoir bénéficier, des programmes d'éducation thérapeutique adaptés à l'âge pour optimiser la prise en charge de fond et la gestion des crises.
Alors maintenant, docteur Panier, une fois le diagnostic avéré, quel est le rôle du pédiatre d'un centre de référence dans la gestion du parcours de soins d'un enfant atteint d'angioédème aquiline?
Le rôle du pédiatre du centre de référence est de sécuriser l'enfant dans son parcours de soins, à la fois pour la gestion des crises aiguës, qu'elles surviennent dans le temps scolaire, dans la pratique des loisirs ou dans la vie familiale, avec l'accès au traitement d'urgence et l'évaluation de l'impact sur sa qualité de vie, dans le fond, du nombre de crises, avec l'adaptation de son traitement de fond, en adéquation avec les progrès thérapeutiques récents, afin de limiter au maximum le nombre de crises et leur retentissement sur le quotidien, d'aider les parents à sécuriser l'enfant dans ce parcours de soins, de permettre à ce que les enfants et les familles aient accès à des programmes d'éducation thérapeutique adaptés à l'âge et d'assurer la transition à l'adolescence avec les équipes adultes, afin de permettre le moindre impact dans le quotidien de cette pathologie.
Eh bien, merci infiniment, docteur Panier. Merci de nous avoir éclairés sur ces angioédèmes aquilines lorsqu'ils surviennent chez les jeunes enfants. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la compréhension de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.erareàlécoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition et où vous pourrez retrouver les précédents épisodes qui lui sont consacrés. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur les angioédèmes aquilines du point de vue du dermatologue cette fois. À très vite.